France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Avant la rentrée des élèves prévue à partir de demain, sachez que les professeurs font leur pré-rentrée aujourd'hui. Ils sont plus de 800 000 du primaire au lycée, 800 000 enseignants, sûrement très intéressés par l'annonce du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il va lancer d'ici le mois d'octobre un Grenelle des professeurs pour revaloriser le salaire des enseignants et leurs conditions de travail. Pour cela, ce ne seront pas 500 millions, mais 400 millions d'euros qui seront débloqués. La FSU réagit dans le journal de 6h30 sur France Culture à cette enveloppe revue à la baisse. Dans une demi-heure également, nous vous rappellerons les règles en entreprise. À partir de demain, port du masque obligatoire. Une règle toutefois encore très floue car il pourrait y avoir des dérogations. Gouvernement et syndicats doivent trancher aujourd'hui. Une rentrée à risque donc, alors que l'épidémie de Covid-19 ne ralentit pas. 5400 nouveaux cas ont été détectés hier. Le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation reste stable par rapport à samedi. Dans l'actualité encore ce lundi matin, Veolia qui veut avaler Suez pour devenir un géant de l'eau, des déchets et de l'énergie. La proposition a été déposée sur la table d'Engie, principal actionnaire de Suez. Emmanuel Macron au Liban à partir de ce soir. C'est la deuxième visite du président de la République après l'explosion qui avait ravagé Beyrouth le 4 août dernier. Emmanuel Macron doit rencontrer les représentants des principaux partis politiques au Liban. Mais sachez qu'hier déjà, le président Michel Aoun avait reconnu la nécessité de changer de système politique. Et puis un officier de l'armée française a été mis en examen ces derniers jours. Haut gradé, il est soupçonné d'avoir transmis des copies de documents militaires à la Russie, et ce, depuis un centre militaire de l'OTAN en Italie. Nous vous expliquerons les enjeux de l'espionnage au sein de l'OTAN dans le journal de 6h30.
Sur France Culture, à l'heure du déjeuner, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Toute l'actualité culturelle et des idées en deux fois une demi-heure. On ouvre la semaine avec un historien qui fait date, Patrick Boucheron. On la refermera avec un bon onze de la littérature, Emmanuel Carrère. Mais aussi une comédie musicale signée Blandine Rinkel, un thriller écologique, celui de Pierre Ducrozet, un polar rural, Laurent Mauvignier et L'Arche de Noé de Joël Zask.
La grande table, de lundi à jeudi à midi ou en podcast et sur franceculture.fr. Chaque soir à 21h, de lundi à vendredi, réfléchir le monde autrement, de grands thèmes de société, autour de l'école et l'éducation, être et savoir avec Louise Touret, l'environnement dans De cause à effet d'Aurélie Lumeau. Antoine Garapon éclaire le droit dans Esprit de justice. Dominique Rousset ausculte les cartes de nos géographies sociales. Sous l'angle de la philosophie, Frédéric Worms s'interroge ce qui se passe à présent. Cultivons nos savoirs, nos envies, nos questions autour de grands thèmes et débats de société, chaque soir à 21h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Avant le réveil culturel de Toufik Hakem dans quelques minutes, voici votre nouveau rendez-vous de cette rentrée 2020, Le Monde Vivant avec Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Bruno David nous parle ce matin de l'éléphant nain.
Polyphème rugit et se tord de douleur lorsqu'Ulysse plante dans son œil unique un épieu rougi au feu. Le cyclope, devenu aveugle, ne peut empêcher la fuite du héros grec. Son père Poséidon déchaînera une tempête, mais Ulysse survivra, on connaît la suite de l'histoire. Polyphème habitait avec d'autres cyclopes la Sicile, belle île méditerranéenne, où il élevait ses moutons et dévorait de temps à autre quelques marins égarés. Le fait que soit une île est important, la suite va le démontrer. Les cyclopes sont des géants monstrueux de la mythologie grecque, à l'œil unique, placé au milieu du front. A priori, on pourrait croire que ces cyclopes sont nés de l'imagination débordante de quelques poètes. Il n'en est rien, ou du moins ces poètes ont puisé leur inspiration dans des observations bien réelles. En effet, sur certaines îles méditerranéennes, on trouve de curieux fossiles, pas si vieux que cela d'ailleurs. Les plus anciens remontent à quelques centaines de milliers d'années, les plus récents sont datés d'environ 10 000 ans. Ces fossiles correspondent à une boîte crânienne plutôt arrondie, à la face plate, munie d'une fosse unique à l'avant, comme une grosse orbite au milieu du front. Le crâne, d'un volume qui est plus du triple de celui d'un humain, a pu être interprété comme celui d'un géant. Avait-on retrouvé la trace du cyclope ? Pas vraiment. Nous savons aujourd'hui que les espèces de mammifères herbivores de grande taille sur le continent peuvent engendrer sur des îles des populations naines. Le nanisme insulaire est une réponse évolutive à des conditions spécifiques aux îles. Une nourriture moins abondante, une absence de prédateurs. À cela s'ajoutent des effectifs réduits qui favorisent une évolution rapide. Ainsi, l'éléphant nain Elephas falconeri, qui a été trouvé en Sicile, à Malte, en Crète et sur plusieurs îles grecques, atteignait à peine un mètre au garrot pour un poids d'environ 200 kg, ce qui fait de lui un éléphant miniature. L'orifice au centre du front n'est pas une orbite, mais correspond aux fosses nasales qui initient le démarrage de la trompe, placée assez haut sur la face d'un éléphant. Cet éléphant miniature avait pour cousin un éléphant de grande taille, Paléoloxodon anticus, qui pouvait mesurer 3 mètres au garrot. On peut alors reconstituer leur histoire. Certains éléphants ancestraux ont pu rejoindre à pied sec les îles d'aujourd'hui, à une époque où elles n'étaient pas des îles, le niveau des mers étant très bas lors des glaciations. Puis avec la fonte des glaces, le niveau marin remontant, de petites populations devenues insulaires ont évolué vers des petites tailles. Ce phénomène a affecté diverses espèces d'herbivores sur plusieurs groupes d'îles méditerranéennes, hippopotames, antilopes, sangliers, aurochs miniatures et même un mammouth nain en Crète. Un bon début de scénario pour un nouvel épisode de l'Âge de glace.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, l'actualité de la culture avec celles et ceux qui la font, c'est tous les jours, tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé sur notre site ou l'abonnement au podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, mon invité est une habituée du réveil culturel. Oriane Jeancourt et Galine Yanni, qui publient dans la collection Le Courage de Grasset, La Femme Écrevisse. S'il fallait trouver à ce roman un sous-titre encore plus accrocheur, on opterait pour La Face Cachée de Rembrandt.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Oriane Jeancourt, ravi de vous retrouver, bronzée, reposée. Quand je dis que vous êtes une habituée du réveil culturel, c'est parce que depuis quelques années, vous êtes le partenaire en tant que rédactrice en chef du magazine Transfuge. Une fois par mois, vous venez nous donner vos coups de cœur littéraires. Mais là, on va commencer par parler de votre livre parce que vous faites partie de la rentrée littéraire avec La Femme Écrevisse. Ainsi donc, Oriane, tout va bien, hein?
Bah oui. Mais bien sûr, je suis ravie de vous voir, vous aussi, vous avez l'air en pleine forme.
Donc, 350 ans après la mort du grand maître du siècle d'or néerlandais, dans une foisonnante fiction où le thème des métamorphoses est au centre, vous déclinez en trois parties, trois histoires, trois époques différentes, quelque chose qui tourne autour de Rembrandt. Et vous dévoilez d'ailleurs le côté sombre du puissant maître.
Oui, bon, évidemment, c'était pas le premier objectif de ce roman que de tirer sur Rembrandt, mais c'est vrai que partant de cette gravure, La Femme Écrevisse, donc qui donne le titre du livre et qui va être un peu le fil rouge de tout le roman, qui va traverser les époques, révéler un peu les personnages. Eh bien, cette femme écrevisse, créature mi-humaine, mi-animale, cette femme écrevisse et son mystère, son inquiétante étrangeté, va en premier lieu, c'est vrai, révéler la nature assez assez cruelle de Rembrandt, puisque la femme écrevisse va révéler cette passion amoureuse qu'il a eue à la fin de sa vie avec Margot étant celle qui s'occupait de son fils, la gouvernante de son fils, et puis Margot étant aussi sa maîtresse, et Margot étant finalement la femme qu'il a envoyée à l'asile et qu'il a condamnée à une disparition atroce.
Et vous le balancer, en quelque sorte. D'où ma première réflexion, c'est vraiment un roman d'époque, même si on traverse plusieurs époques, c'est-à-dire du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, en passant d'Amsterdam à Berlin et de Berlin à Paris, on a l'impression, Oriane Jeancourt-Galignani, que c'est aussi une manière de répondre à l'époque d'aujourd'hui.
Oui, sans doute. De toute façon, je crois que c'est assez difficile de sortir de son époque, hein. Même quand on le cherche vraiment, l'époque nous rattrape inévitablement. Oui, sans doute, en effet, que faire vivre comme ça ces anonymes, ces femmes anonymes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas vraiment de place dans l'histoire, que ce soit l'histoire politique ou l'histoire de l'art, comme maintenant, c'est assez récent. Et c'est vrai que Margot était jusqu'à maintenant, dans les livres d'histoire de l'art, le modèle, un modèle intéressant. Et elle n'était finalement interrogée que dans la mesure où elle changeait un peu par son rôle de modèle, la peinture de Rembrandt. Elle avait aussi assez mauvaise réputation, cette Margot, puisque on considérait qu'elle avait harcelé ce pauvre Rembrandt qui était ruiné avec des demandes en mariage, alors qu'elle aurait mieux fait de rester à sa place. Et finalement, le fait qu'elle ait été comme ça envoyée au Spinuis, c'est-à-dire à l'asile, mais un asile de femmes, où on envoyait à l'époque non seulement les femmes réellement malades, folles, mais aussi les prostituées, les mendiantes, enfin toutes ces femmes marginales qui n'avaient pas de place dans la société d'Amsterdam du XVIIe siècle, eh bien ce fait-là n'avait finalement pas réellement interpellé les historiens jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que...
Alors qu'elle a été plus que l'inspiratrice du peintre de Rembrandt. C'est ce que vous laissez entendre dans votre livre.
C'est toute la question, et c'est bien pour ça que c'est un roman. Moi, j'aime beaucoup les zones de mystère comme ça qui peuvent parcourir l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, le XVIIe siècle, c'est loin. Rembrandt a été, Dieu sait qu'on a tant écrit sur Rembrandt, mais finalement, on n'a jamais vraiment su beaucoup de choses sur sa vie privée. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé avec cette femme. La seule chose qu'on sait, c'est que ça s'est donc mal fini et qu'elle est morte à l'asile. Et on ne sait pas quel rôle elle a joué dans sa peinture. J'ai imaginé qu'elle avait joué un rôle fondamental. Et en effet, parce que à ce moment-là, dans la peinture de Rembrandt, il y a un tournant. Il y a un tournant dans ses gravures, puisque moi je m'intéresse particulièrement aux gravures, c'est-à-dire que ce sont des gravures qui, à ce moment-là, parce qu'il y a plus d'encre, perdent un peu leur réalisme extrêmement fort et se s'ornent de ce mystère, de cette part d'ombre qui va évidemment faire la postérité de Rembrandt. Mais il y a aussi un tournant dans sa peinture, puisque on voit comme dans ses choix, il va beaucoup plus peindre le peuple, il va beaucoup plus peindre des personnages étranges. Donc, je peux le dire, il ne peindra pas de femme écrevisse. La femme écrevisse...
Ça appartient à la fiction.
Et voilà, est une créature inventée. Et il fallait qu'elle soit inventée pour qu'elle trouble réellement le lecteur, comme moi-même elle m'a troublée pendant l'écriture. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, donc dans cette dernière partie de sa vie créative, il va de plus en plus peindre des animaux, des créatures étranges, des visages qu'il voit sur le port d'Amsterdam, des femmes qui sont vieillissantes, qui sont abîmées par la vie. Enfin, il va essayer de nous dire autre chose que ce qu'il a essayé de dire dans la première partie de sa vie de peintre et d'homme, c'est-à-dire l'ambition, c'est-à-dire la grandeur de cet Amsterdam du XVIIe siècle.
La femme écrevisse, donc, c'est le titre de votre ouvrage, Oriane Jeancourt Galignani. C'est aussi cette gravure du maître. Là, on est dans la fiction, puisqu'il n'y a pas eu ni la femme écrevisse, ni toutes les variations de la femme écrevisse. Mais il y a donc ce tableau qui va traverser les siècles, les villes. On commence d'abord à Amsterdam. Alors, c'est vraiment Amsterdam en plein boom, que vous décrivez très, très bien. C'est le capitalisme, la ville va très bien, tout le monde s'affiche. Et il y a cette Margot qui a déjà 40 ans quand elle se présente au domicile du maître. On ne sait toujours pas que c'est Rembrandt et elle va se faire recruter tout de suite. Je vous propose d'écouter un extrait du roman de Oriane Jeancourt Galignani lu par Marie Constant.
Le peintre fait signe à Margot de monter s'installer. Pourquoi elle et pas une autre? Parce qu'elle est la première à se présenter. Parce qu'elle lui rappelle un garçon qu'il l'aimait bien à l'atelier, rond et rigolard. Parce qu'elle sait cuisiner. Parce qu'elle a du ventre et les cheveux fins. Parce que se creusent le long de ses lèvres de longues rides qui assurent qu'elle survivra à tout. Parce qu'il aime son haut front mat et le moucheté fauve de ses pupilles, parce que si elle a connu la mort dans son lit, elle n'est pas étrangère à sa douleur, parce que le petit pleure même lorsqu'il n'a plus faim, parce qu'il n'aime pas les gestes pressés agacés de la bonne, parce qu'il paierait n'importe quelle main douce et calme pour faire oublier à son fils que sa mère vient de mourir.
On voit dans cet extrait déjà qu'une passion va naître entre cette gouvernante et le maître.
Oui, absolument. C'est une passion amoureuse, une passion charnelle, et ça, j'ai voulu le faire vivre. C'est assez évident, d'ailleurs, quand on voit les tableaux et la manière dont il l'a peinte, et dans les gravures, et dans la peinture. Et ce que je trouvais beau, c'est que c'est une passion entre deux, un homme et une femme qui ont plus de 40 ans. Alors, plus de 40 ans, bon... D'autant plus à l'époque, bien sûr. Ça signifiait quelque chose. Ce sont des gens qui pensent que leur vie est terminée et c'est à ce moment-là que cette passion étrange, cette passion secrète, hein, puisque il est hors de question de vivre ça au grand jour, eh bien va naître entre les deux cette passion relativement bestiale aussi. Et puis finalement cette passion qui va renaître dans une forme de dialogue artistique. C'est ça aussi que je voulais montrer, comment est-ce que la passion de l'art et la passion charnelle se mêlent et se ressemblent d'une certaine manière.
Et l'autre force de votre livre, Auriane Jeancourt Galignani, c'est que effectivement, il y a cette gravure, il y a cette femme écrevisse. D'ailleurs, est-ce une écrevisse qui se transforme en femme ou une femme qui se métamorphose en écrevisse? Toute la question est là. Elle n'est pas seulement regardée par les protagonistes de votre roman au fil des siècles et des trois histoires et des trois époques. Elle-même, cette toile, a l'impression de les voir et d'avoir une influence sur ces personnages. D'abord Margot, au début, et puis ensuite, on va passer à Berlin, le Berlin de l'entre-deux-guerres, avec Ferdinand, et puis la partie la plus contemporaine, celle de Paris d'aujourd'hui, avec Grégoire. Et tous ces personnages qui vont hériter, bien sûr, parce que ça, ce tableau reste au sein d'une même famille, cette femme écrevisse qui va voyager, elle va avoir de l'influence sur ces gens-là.
Oui, parce que ça c'est quelque chose que je crois profondément, c'est que quand on aime profondément une œuvre, elle peut nous habiter et elle peut d'une certaine manière nous transformer. Ou alors nous annoncer une part de ce que nous allons vivre. Évidemment que j'ai pensé au portrait de Dorian Gray quand j'ai écrit ce livre, mais pas seulement. Je crois que voilà, quand on et c'est le cas de ces trois personnages, que ce soit Margot qui peu à peu devient elle-même une passionnée d'art et une artiste, que ce soit Ferdinand qui est acteur et qui lui véritablement incorpore l'art, ou que ce soit Grégoire qui est un jeune homme de 20 ans, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, mais ce qui est sûr c'est que il nourrit cette passion pour l'art. Eh bien, pour eux l'art est si important que il les détermine. Et je crois que cette femme écrevisse va leur annoncer à chacun ce qu'ils vont devenir, le genre de métamorphose qu'ils vont subir, le genre de crise qu'ils vont traverser.
Et donc de drame aussi. Et c'est aussi une manière de parler de trois époques différentes.
Oui, alors parce que je voulais comme ça, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce qu'un tableau peut être reçu, peut être compris, peut être saisi à différentes époques, et prendre Rembrandt, qui est peut-être le peintre le plus connu au monde, c'était d'autant plus intéressant de voir ça. Et le scandale du XVIIe siècle avec la femme écrevisse devient, dans le Berlin des années 20, une sorte de curiosité un peu trouble, mais en tout cas qui va attirer ce Berlin des années 20, notamment avec Ferdinand, ce cinéma des années 20. On voit comme elle va faire écho avec cette Allemagne trouble, cette Allemagne expressionniste. Et puis ensuite, à notre époque, on voit comme elle est au Louvre, elle est devenue institutionnelle. Et finalement, une grande partie des gens ne ressentent plus le scandale de cette femme animale qui danse. Seuls quelques esprits sensibles, comme ceux de Grégoire, seule une grande jeunesse comme la sienne, peut voir dans cette créature quelque chose d'insoutenable, quelque chose d'extrêmement profond qui nous parle du lien entre la folie et l'art.
Culture, le réveil culturel, Tofik Hakem.
Dans Amsterdam pluvieux, où le jour est en berne, quel est donc ce fumeur rêveur et nonchalant qui regarde par les vitraux une taverne, le canal où se mirent les arbres tremblants. Rembrandt. Un obscur génie qui se nourrit de chimères, de visions d'ombre, de songes hallucinants. Prométhée chut dans les marais de la misère pour avoir volé le ciel en peignant. Rembrandt.
Rembrandt. C'est ainsi que Eddy de Fac, grand auteur, compositeur, interprète belge, prononce le nom de Rembrandt. C'était en 1966, si ça se trouve. Il se rapproche le plus, d'ailleurs, de la prononciation originale. Auriane Jeancourt, Galignani, vous qui avez consacré donc ce livre, votre dernier roman, La femme écrevisse, à Rembrandt. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Rembrandt cet été, puisque une de ses œuvres a été, 350 ans après sa mort d'ailleurs, a été vendue. Vous savez, c'est un de ses trois autoportraits qui appartenaient toujours à des particuliers. C'est l'autoportrait coiffé d'une collerette et d'un chapeau noir qui a été réalisé dans sa jeunesse, sans doute pour séduire la bourgeoisie d'Amsterdam. La maison Sotheby's l'a donc vendu à 16 millions d'euros en juillet. Voilà, le précédent record pour un autoportrait de Rembrandt, c'était en 2003, pour une somme de 6,9 millions de livres. Alors, je dois faire la boue.
Mais non, mais c'est évidemment toujours, je vais pas dire amusant, mais c'est l'ironie de l'histoire, sachant que lui-même est passé par une telle époque de ruines et de pauvreté à la fin de sa vie.
Alors, vous nous dites pas ce que vous pensez de Rembrandt, hein. C'est-à-dire, l'homme est présent et son art, Auriane Jeancourt, Galignani.
Je ne dis pas ce que je pense de l'homme, ouais. Je ne le juge pas, non, mais je ne vais pas juger l'homme, je pense que de toute façon...
Non, c'est le contraire, je disais, vous jugez l'homme mais pas l'artiste.
Ah non, mais je crois que bon, c'est assez acquis, j'ai passé plusieurs années à écrire un livre sur lui, évidemment que j'ai une stupéfaction qui sans cesse se nourrit à chacun de ses tableaux.
Est-ce que la littérature, c'est d'inventer une œuvre à Rembrandt, cette femme écrevisse?
Oui, d'ailleurs c'est une gravure, je ne sais pas si j'aurais osé inventer un tableau, parce que des gravures, il en a fait énormément, et je les trouve d'une certaine manière plus accessibles. Vous savez, c'est très compliqué, Rembrandt, Picasso, de parler de leurs tableaux, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit, alors que l'art gravé est six fois résonnant, si riche, si quotidien, puisqu'il parle, encore une fois, il grave assez rapidement des gens qu'il croise dans la rue, il grave ses amis, il grave ses maîtresses, il grave son fils énormément. Il grave très vite, et donc il y a quelque chose comme ça de rapide, d'une forme de chronique, de nouvelle, on pourrait dire, pour un écrivain, qui le rend beaucoup plus humain et qui, à mon avis, nous raconte beaucoup plus sur l'homme aussi.
C'est édité chez Grasset dans la collection Le Courage, la femme écrevisse. Auriane Jeancourt, Galignani, vous êtes aussi, et on le sait, rédactrice en chef du mensuel Transfuge. Alors, vos coups de cœur littéraires, cette rentrée littéraire qu'on attendait avec impatience.
Oui, et comme chaque rentrée littéraire, au début on est très enthousiaste, ensuite on est un peu déçu, et puis on retrouve l'enthousiasme ensuite. Et voilà, donc là je
trouve... Vos trois coups de cœur, ouais.
Alors, mon premier coup de cœur, c'est un Roumain qui s'appelle Catalin Mihuleac, hein, pardon si je le prononce mal, mais qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Les Oxenberg et les Bernstein aux éditions Noir sur Blanc. C'est fabuleux parce que au début on est dans la grande tradition satirique Mitteleuropa, vous voyez, on rit beaucoup. C'est une Roumaine qui rencontre la famille Bernstein & Co, on est à notre époque, et elle va épouser un fils Bernstein. La famille Bernstein a fait fortune à New York parce que elle vend du vintage, tout est second hand, et évidemment avec l'histoire qui va avec. Donc, c'est-à-dire qu'elle va vendre une casquette soviétique en racontant que ça appartenait à un grand soldat, et les Américains achètent ça très cher parce qu'ils sont très friands de cette vieille histoire soviétique. Pareil avec l'histoire nazie. Enfin, ils vont... Tout se recèle. Voilà, ils ont des énormes entrepôts en Roumanie où on retrouve la chaussette de Marilyn Monroe, le parapluie... de Ceausescu, tout y est dit et ces reliques deviennent voilà vraiment des objets extrêmement chers. Et ces pages-là, évidemment, sont très très drôles parce qu'on voit que tout peut être vendu, que l'histoire ne signifie plus rien et qu'elle n'est finalement qu'une valeur ajoutée aux objets qui circulent sur Internet. Et puis peu à peu, ça va devenir plus grave parce que souvent la satire comme ça du centre européen tourne vers une forme de mélancolie et on va découvrir l'histoire des Oxenberg, qui, eux, ont vécu une tragédie pendant la guerre que je ne vous révélerai pas.
Les Oxenberg et les Bernstein de Cataline Mirouléac, c'est chez Noir sur Blanc. Deuxième coup de cœur d'Oriane Jeancourt.
Alors, je sais que nous avons en commun, Toufi, que nous aimons beaucoup les jeunes auteurs, et puis surtout pendant les rentrées. Après tout, une rentrée littéraire, c'est tout de même fait pour ça. Alors là, je voudrais vous parler de Grégory Le Floch, qui écrit un roman, son second roman, je trouve qu'il est peut-être le plus beau titre de la rentrée. Ça s'intitule « De parcourir le monde et d'y rôder ».
Alors, Grégory Christian Bourgois.
Chez Christian Bourgois. Alors, Grégory Le Floch avait déjà signé un premier roman tout à fait surprenant, qui est très bernardien. Et alors là, il continue, il se met un peu sous l'influence de Kafka et Bernard, puisque nous sommes dans un roman absurde, qui vire totalement, qui assume totalement son absurdité. C'est un jeune homme, un narrateur, qui ramasse une chose dans la rue. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et pendant tout le livre, il va se promener entre Vienne et Paris avec sa chose. Il va montrer sa chose à différentes personnes. Et les différentes personnes vont essayer d'interpréter ce qu'est cette chose. Il y aura des choses très très drôles. Par exemple, il va photographier sa chose, il va la mettre sur Internet et tous les commentaires vont dire, mais bien sûr, ça c'est un résidu de Franz Liszt. Ça c'est... Enfin, il y a mille et une interprétations. Donc, vous l'avez compris, c'est absurde et c'est drôle. Et c'est très fin. Et je trouve que c'est vraiment une voix totalement neuve que celle de Grégory Le Floch.
De parcourir le monde et d'y rôder de Grégory Le Floch chez Christian Bourgois. Et puis enfin, troisième coup de cœur littéraire d'Oriane Jeancourt, et peut-être même le premier puisqu'il fait la couverture du dernier numéro de Transfuge.
Oui, c'est une couverture qui a fait l'unanimité de notre rédaction. Elle s'appelle Yagyazi et elle signe Sublime Royaume.
Chez Calman Lévy.
Voilà. C'est une auteure qui a 31 ans, qui a déjà connu un grand succès aux États-Unis qui s'appelle No Home. Et là, ce sublime royaume, eh bien, c'est très fin parce que elle raconte un peu de son histoire et pas vraiment, c'est-à-dire c'est une famille d'origine ghanéenne qui arrive aux États-Unis avec évidemment de grands espoirs, de grandes ambitions. La mère est aide ménagère et le père ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Le sublime royaume, c'est les États-Unis, qui se révélera et ne se révélera pas, ce sublime royaume. La mère va sombrer dans une dépression, le père va s'enfuir, mais la fille va faire Harvard et devenir une grande scientifique. Et elle, c'est à ce moment-là qu'on la découvre, et c'est à ce moment-là qu'elle nous raconte, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'Amérique a été un sublime royaume, ou est-ce que l'Amérique a été la tragédie?
Et en plus, d'actualité.
On ne peut plus, je crois.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et on peut retrouver bien sûr les recommandations d'Oriane Jeancourt Galignani, mon invité ce matin sur franceculture.fr à la page de l'émission Le Réveil Culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Manon Houssin. Merci Oriane Jeancourt d'être passée ce matin et on se donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude.
Avec plaisir, merci à vous.
Belle matinée sur France Culture et à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tout Radio France dans votre mobile. Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores.
C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. En cette pré-rentrée masquée et covidée, le ministre de l'Éducation nationale promet des hausses de salaire pour les enseignants. 400 millions d'euros seront mobilisés, mais qui sera vraiment concerné? La FSU nous explique qu'elle regrette une ambition revue à la baisse dans un instant. Dans ce journal aussi, nous vous raconterons l'histoire de l'espionnage entre Moscou et Paris. Un espion franco-russe a été mis en examen pour avoir transmis des documents à la Russie. La Russie toujours pointée du doigt pour la façon dont elle traite par ailleurs ses opposants. Alors qu'Alexei Navalny est toujours dans le coma, soigné en Allemagne pour un empoisonnement, notre correspondant à Moscou a interrogé d'autres opposants. Leur quotidien, vous l'entendrez, est fait de peur et de suspicion. Mais d'abord ce vol que l'on peut qualifier d'historique. Tel Aviv, Abu Dhabi. Pour la première fois ce matin, un vol civil va rallier Israël aux Émirats Arabes Unis, 18 jours après que les deux pays aient annoncé la normalisation de leurs relations. Le symbole est beau, évidemment, mais ce vol commercial n'est pas ouvert au grand public. Il va en fait transporter les délégations israéliennes et américaines. Elles sont censées finaliser l'accord entre Israël et les Émirats, Frédéric Mettezo.
Le vol 971 de la compagnie israélienne El Al, avec une étoile de David et le mot « paix » écrit en arabe et en hébreu sur la carlingue, partira de Tel Aviv et survolera l'Arabie Saoudite, ce qui est aussi une première. Mais il ne transportera que des journalistes et des hautes personnalités comme Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial de Donald Trump, avec des diplomates et conseillers américains et israéliens très haut placés. Avec les Émiratis, ils parleront diplomatie, visa, commerce, finance, tourisme, santé avec la lutte contre le coronavirus et défense. Ce dernier point est le plus délicat car les États-Unis veulent vendre des avions de chasse F-35 aux Émirats et ça ne plaît pas en Israël qui souhaite conserver son monopole au Moyen-Orient sur ce matériel de pointe américain. Cette polémique a déjà entraîné l'annulation d'une réunion tripartite à New York il y a 10 jours. Derrière la belle image d'un avion civil, les avions militaires vont compliquer les discussions.
Ironie de la situation. Tous les vols commerciaux d'El Al sont annulés depuis qu'a éclaté l'épidémie de nouveau coronavirus dans le monde. Un repreneur pourrait racheter cette compagnie en grande difficulté. Reprise potentielle cette semaine. Le ministre français de l'Éducation nationale veut un Grenelle des professeurs. Jean-Michel Blanquer l'a dit hier. Il souhaite revaloriser le salaire des enseignants et leurs conditions de travail d'ici à 2021. Et il précise l'enveloppe qui sera dégagée pour cela. 400 millions d'euros et non plus 500 millions comme initialement évoqué. L'ambition est donc revue à la baisse. Ces aides ne pourront concerner qu'une seule partie des professeurs. Voilà ce que dit ce matin Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES.
On s'est évidemment rapporté à 800 000 enseignants, les autres personnels étant d'ailleurs oubliés. Ça ferait très peu, donc il est évident qu'ils souhaitent sans doute se concentrer au départ sur les débutants, les jeunes enseignants dont les salaires sont particulièrement faibles. Le tout est de voir s'il s'agit d'une mesure qui est suivie d'autres, si encore une fois on arrive à constituer, alors pour le coup, une vraie programmation pluriannuelle.
Donc on le sait, on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de postulants au concours à cause de ces salaires qui, justement, font partie des plus bas d'Europe.
Oui, on sait que les salaires, y compris pour les débuts de carrière, mais y compris après 15 ans de carrière, sont parmi les plus faibles d'Europe. Ça contribue évidemment à la désaffection vis-à-vis du métier, notamment dans des disciplines où avec un master, vous pouvez trouver des emplois bien mieux payés.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi, et c'est dans ce contexte que se déroule aujourd'hui la pré-rentrée pour les 800 000 enseignants en France. Une rentrée masquée, excepté toutefois fois auprès des tout-petits, le port du masque dans les crèches, chez les assistantes maternelles et pour la garde de petits-enfants à domicile ne sera pas encore obligatoire en présence des enfants. C'est ce que disait hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le masque aussi pour tous les salariés en entreprise, obligatoire là à partir de demain, même si certaines activités professionnelles sont difficilement compatibles avec le port du masque. La ministre du Travail en a convenu hier. Elisabeth Borne, toutefois, ne cite pas encore toutes les professions qui pourraient bénéficier de dérogations. Les partenaires sociaux doivent évoquer ce protocole sanitaire en entreprise aujourd'hui avec le ministère du Travail. Un champion mondial de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Voilà ce que souhaite créer Veolia. Celui qui est déjà géant du traitement de l'eau et des déchets veut intégrer son concurrent, Suez. Veolia a donc remis hier à Engie, le grand actionnaire de Suez. Veolia lui a remis une offre ferme à hauteur de 2,9 milliards d'euros. Cette offre concerne près de 29% de Suez. Venons-en maintenant à ces soupçons d'espionnage. Un officier français basé à l'OTAN en Italie est soupçonné d'avoir livré des documents ultra sensibles à la Russie. Mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère, il a été écroué il y a 10 jours à Paris et nous l'avons appris hier. Les affaires de ce genre révélées au grand public sont assez rares, mais l'espionnage est une activité permanente entre puissances rivales. Bertrand Galichet.
L'espionnage militaire n'a pas vraiment changé depuis la fin de la guerre froide et la Russie a des raisons particulières de s'intéresser au commandement de l'OTAN en Italie. C'est ce qu'observe le journaliste Jean-Marc Tanguy, spécialiste des questions de défense.
Les services de renseignement sont là pour renseigner. Il faut en fait avoir des capteurs qui sont placés aux bons endroits. Ça peut être en haut d'une pyramide militaire, ça peut être aussi aux échelons intermédiaires. On n'est pas du tout surpris que la Russie, qui se sent régulièrement menacée par l'OTAN, cherche à avoir des renseignements. Et dans un état-major de ce type-là, on manie toutes sortes de renseignements sur une zone qui est en général plutôt celle du flanc sud de l'OTAN, notamment la Méditerranée. La Russie est très implantée en Syrie avec des moyens militaires importants. Elle regarde évidemment depuis plusieurs années les rapports qui se délitent entre l'OTAN et la Turquie.
Une affaire particulièrement embarrassante pour Paris, quelle que soit l'importance des informations divulguées aux Russes, déjà stigmatisées pour avoir mis en cause le fonctionnement de l'OTAN, considérées en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron, la France risque de perdre en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires au moment où l'Alliance Atlantique traverse une crise existentielle.
La France encore qui intervient au Liban et qui semble avoir été entendue. À la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le pays, le président libanais Michel Aoun admet la nécessité de changer de système politique. Il appelle à proclamer un état civil. Quelques heures plus tôt hier, c'est le chef du puissant Hezbollah pro-iranien qui avait annoncé être lui aussi prêt à discuter d'un nouveau pacte politique libanais. Emmanuel Macron, qui presse pour des réformes dans le pays, est attendu ce soir au Liban, 4 semaines, je vous le rappelle, après la double explosion qui avait ravagé la capitale, Beyrouth. Nous reparlerons des enjeux politiques au Liban avec Julie Gacon dans les enjeux internationaux et avec son invité, Jean-Pierre Filiu, à partir de 6h45, dans moins d'un quart d'heure. Sachez d'ici là que plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont encore rassemblés hier en Biélorussie à Minsk pour le 3e week-end de suite. Il réclame toujours le départ d'Alexandre Loukachenko qui est une fois encore apparu hier armé en entrant dans sa résidence. Loukachenko a fêté son 66e anniversaire hier. L'occasion pour son homologue russe Vladimir Poutine de l'appeler par téléphone et de l'inviter à Moscou. Signe peut-être du soutien que veut encore apporter le Kremlin au président bélarusse. Moscou encore qui a finalement lancé une enquête au niveau local pour déterminer les causes de l'empoisonnement d'Alexei Navalny, opposant au régime. Pas de quoi pourtant rassurer l'opposition russe qui est régulièrement sous pression. Les militants se protègent comme ils peuvent. Claude Brouillot a réussi à en rencontrer certains et il nous raconte.
Un seul gardien filtre les entrées au siège du parti d'opposition Yabloko. Son jeune président Nikolaï Rybakov reçoit dans son bureau sans aucune protection, mais tout change lorsqu'il se déplace en région.
Les règles essentielles à respecter que je peux citer sont les suivantes. Savoir où tu loges pendant ton déplacement, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, avec qui tu voyages. Tu dois bien sûr respecter toutes ces règles, mais il peut y avoir des situations qu'on ne peut pas exclure. Ce n'est pas possible.
Tous les activistes, comme on les appelle, de l'opposition russe en dehors du système ne sont pas exposés comme peut l'être Alexei Navalny par exemple. Mais beaucoup, comme Nastia, qui ne souhaite pas donner de détails détails sur sa situation ont du mal à s'habituer aux risques qu'ils encourent.
Parfois, oui, je m'inquiète. Je pense à ma sécurité, je pense à la sécurité de mes amis. Ça me fait un peu peur, mais après, je ne suis pas surprise en fait. On voit bien qu'Alexis, c'est quelqu'un qui prend le risque. Ça ne fait pas peur aux gens, ça les rend plus fâchés. C'est un peu scandaleux, oui, de faire ça.
Nastia dit aussi qu'elle souhaite qu'Alexei Navalny se rétablisse. Dans le cas contraire, des réactions d'opposants dans la rue ne sont pas exclues.
C'était Claude Bruyot, notre correspondant à Moscou pour France Culture. Les averses en France métropolitaine aujourd'hui touchent l'est du pays, laissant un ciel humide de l'Auvergne jusqu'à l'Alsace, en PACA même ce matin. Ailleurs, prévoyez de belles éclaircies et des températures légèrement en dessous des normales de saison. Ce matin, il fait 11 degrés à Rennes, 13 à Paris, Lille et Strasbourg, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Lyon, 19 degrés à Marseille. Et il fera cet après-midi entre 18 et 25 degrés du nord au sud. Il est 6h40 sur France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous nous avez rejoint dans le studio. Nous le disions dans le journal, Jacques, la rentrée se prépare. Mm-hmm. Demain, plus de 12 millions d'élèves, 1 million de personnels de l'enseignement s'apprêtent à faire le retour peu à peu dans les établissements scolaires. Une rentrée sous contrainte sanitaire qui fait débat.
Et oui, car le nouveau protocole sanitaire publié par le ministère n'a plus grand-chose à voir avec le carcan de règles drastiques qui avait obligé les établissements à réduire leur capacité d'accueil en mai-juin dernier. Cette fois, plus d'obligations strictes de distanciation physique, la fameuse norme des 4 mètres carrés par élève, un casse-tête pour les enseignants, ou de non-brassage des groupes et des classes. Dans l'hebdomadaire Marianne, Anthony Cortès parle de relâchement. La distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. La priorité clairement affichée est de scolariser tous les élèves, alors que l'on constate une accélération croissante de la transmission du Covid, faisant même redouter une deuxième vague dans les semaines à venir. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, les professeurs, comme les enfants de plus de 11 ans, auront l'obligation de porter un masque à l'intérieur et pas à l'extérieur. Dans le Figaro Vox, Jean-Paul Brighelli se réfère aux travaux de Gregory Bateson et de l'école de Palo Alto pour dénoncer une forme de double bind, de double contrainte ou d'injonction contradictoire dans le fait de porter le masque en classe. C'est la règle sanitaire contre la pédagogie. Pour remplir l'espace d'une classe, écrit-il, il faut forcer sur sa voix. Pour le faire avec un masque, il faut crier plus fort, sans compter qu'en quelques minutes, le tissu se charge d'humidité et colle aux lèvres, au nez, aux joues. L'enseignant à Marseille et auteur d'essais sur l'éducation rappelle l'importance du langage silencieux. Le non-verbal constitue plus de 50% de la communication. Les élèves lisent sur les visages les données complémentaires qui donnent sens au discours. Sans elles, les profs auront la sensibilité et l'expressivité d'un GPS. Et c'est réciproque. En classe, l'enseignant peut lire sur les visages de certains élèves l'incompréhension ou la distraction et adapter son enseignement en se répétant sous une autre forme. Là encore, le virus va aggraver les inégalités. D'après les chiffres communiqués par la DEPP, l'organe statistique de l'éducation nationale, entre 6 et 10% des élèves auraient décroché pendant le confinement. Mais deux semaines après la réouverture progressive des écoles à la mi-mai, Bruno Studer estimait ces chiffres largement en deçà de la réalité. Le député LREM, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, affirmait qu'en fonction des sections et des secteurs géographiques, cela peut monter à 10, 20, 30, voire à plus de 60% d'élèves injoignables. François Dubé et Marie Durubella publient au Seuil « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» Le sociologue évoque dans le mensuel Sciences humaines les effets ambivalents du confinement, solidarité et reconnaissance à l'égard des premiers de corvée, mais aussi sentiment d'injustice et de défiance. Avec le confinement, souligne-t-il, des inégalités auxquelles on s'était habitué, comme les inégalités de logement ou les inégalités subies par les familles monoparentales, sont d'un coup devenues intolérables. Or, dans une société où chacun est tenu pour responsable de son destin, ces inégalités provoquent du ressentiment plutôt que de la révolte, un sentiment de haine diffuse qui ne conduit pas nécessairement au conflit social, mais plutôt au repli communautaire ou nationaliste exploité par le populisme. d'où le rôle crucial joué par l'école. La pandémie, je cite, a rappelé à quel point l'école était plus que l'école. Il faut qu'elle soit ouverte pour que les parents puissent travailler et que la vie sociale s'organise. C'est ainsi également qu'on a découvert que la vie scolaire avait une valeur éducative en soi, que les élèves voulaient aller à l'école pour être avec d'autres. Un collectif de bénévoles a animé au début des années 2010 un collège associatif sur la montagne Limousine, inspiré par les pédagogies innovantes Freinet, Illich, Montessori ou Summerhill. Il a tenté l'expérience d'une école émancipatrice fonctionnant par atelier pour un collège dont les enfants ont la clé. Les éditions du commun publient le compte-rendu et les témoignages de cette aventure édifiante sous le titre « Faire l'école ». La moindre des difficultés n'a pas été, pour obtenir l'agrément de l'éducation nationale, de subir des inspections tatillonnes et soupçonneuses. Mais lorsque l'expérience a pris fin, des membres de l'administration chargés des élèves en difficulté ont regretté cette possibilité alternative qu'elles auraient pu conseiller à certains enfants. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Bonjour, aujourd'hui, au sommaire, le Liban commémore demain le centenaire du mandat français.
Oui, c'est le 1er septembre 1920 que la France proclame le Grand Liban, quelques mois après s'être partagé avec la Grande-Bretagne les territoires que l'Empire ottoman venait de perdre au Moyen-Orient. Cela fera donc 100 ans jour pour jour demain, et c'est la date choisie par Emmanuel Macron pour retourner au Liban. Il s'y était engagé le 6 août lors de sa visite à Beyrouth, dévastée par la double explosion en son port. Le président français avait promis de suivre les étapes du versement de l'aide internationale et la mise en œuvre de certaines réformes exigées en échange. Alors pourquoi s'être engagé sur cette date-là, très chargée politiquement, puisque la France à cette époque a contribué à mettre en place le système confessionnel au Liban, qu'Emmanuel Macron a donc vertement critiqué à Beyrouth, et que le président Michel Aoun, hier, s'est dit prêt à remettre en cause. Bonjour Jean-Pierre Filu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le défi pour Emmanuel Macron du centenaire du Liban, c'est le titre du billet que vous avez publié hier sur votre blog « Un si proche Orient » hébergé par lemonde.fr, où vous expliquez d'abord les différentes étapes qui ont précédé le mandat français au Liban. Il y avait déjà des Français au Liban avant que l'Empire ottoman ne perde des territoires.
Oui, effectivement, il y a eu une première intervention française en 1860 après des massacres particulièrement sanglants contre les chrétiens de ce qu'on appelle le Mont Liban, c'est-à-dire la chaîne côtière qui domine Beyrouth. Et alors s'était mis en place une autonomie du Mont Liban, où on peut dire qu'on a inventé le confessionnalisme actuel, vu qu'il y avait une représentation communautaire, et c'était pas seulement chrétiens contre musulmans, on distinguait les maronites, les grecs catholiques, les grecs orthodoxes d'un côté, les druzes, les sunnites et les chiites de l'autre côté. Donc c'est un peu le laboratoire du confessionnalisme actuel. Et en 1920, non seulement la France donc proclame ce grand Liban, avant tout contre la Syrie dont elle a aussi reçu mandat, mais ça veut dire qu'elle élargit à un grand Liban le système qui était jusqu'alors en vigueur uniquement dans le Mont Liban, dans ce qu'on appelait le Petit Liban avec Beyrouth.
C'est le général Gouraud qui est à l'œuvre à l'époque, connu pour ses années aussi en Afrique sahélienne, et qui, pour le coup, c'est lui qui, de Beyrouth, va avec ses troupes jusqu'en Syrie, proclame le Grand Liban, dont on peut rappeler qu'elle était alors l'étendue. C'était particulier, ce territoire.
Donc, ce sont les 10 452 km² du territoire libanais actuel. Et effectivement, dans le Petit Liban avec Beyrouth, les chrétiens seraient restés majoritaires, mais ce Grand Liban, en incluant la Bekaa à l'est, le Sud Liban, le Nord Liban, va incorporer des territoires à majorité musulmane, soit sunnite, soit chiite, et faire qu'au fond, et ça c'est un paradoxe qu'on rappelle peu, l'État que la France porte, j'ose dire, sur les fonds baptismaux pour ses protégés chrétiens au Liban, et ben elle lui donne des frontières où ces chrétiens vont devenir minoritaires à terme. Ce qui est le cas aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il faudra rééquilibrer petit à petit les pouvoirs, parce qu'il faut rappeler donc que ce qui existait au seul Mont Liban, comme vous nous disiez Jean-Pierre Filu au début de cet entretien, la France l'étend à toute l'administration de son mandat. La constitution libanaise de 1926, elle prône aussi la représentation équitable des communautés, et ce pacte national, il est consacré lors de l'indépendance en 1943. C'est quelque chose qui subsiste au départ de la France, après le départ de la France.
Oui, il faut bien comprendre comprendre qu'à chaque fois qu'on instaure le confessionnalisme, on dit que c'est pour une période transitoire, que c'est pour qu'il se dissolve à terme. Et en 1943, donc contre la France de De Gaulle, hein, j'aime oublier que De Gaulle, le grand libérateur du territoire national, n'a pas été quelqu'un de très tendre outre-mer. Et donc la répression gaulliste fait l'union paradoxale entre les musulmans et les chrétiens contre l'arbitraire de la France, et c'est ce qui donne un pacte national qui sera non écrit, tant il est complexe, tant il est sensible, où la présidence revient à Maronite et le premier ministère à un sunnite, et c'est une formule qui est toujours en œuvre aujourd'hui, même si la guerre dite civile de 1975-90 l'a sensiblement amendée.
Et même si le nombre de chiites a dépassé celui des sunnites, vous parliez d'un rééquilibrage au profit des musulmans, mais il y a aussi au sein des musulmans un rééquilibrage au profit des sunnites et un pacte national qui est quand même révisé de temps en temps, justement pour tenir compte des bouleversements démographique ou pas?
Oui, il est amendé de fait. Aujourd'hui, on a le Hezbollah, qui est donc la milice pro-iranienne chiite, qui est au cœur du système libanais. Comme on dit avec l'humour grinçant de Beyrouth, c'est un État au sein d'un non-État. Et donc, effectivement, ce parti qui a le monopole de la violence armée, c'est la seule milice qui n'ait pas été désarmée après la guerre civile, est aujourd'hui littéralement au cœur de ce système dont on a vu depuis octobre dernier qu'il est largement contesté par une partie importante de la population.
Donc ce n'est pas un raccourci à vous entendre, Jean-Pierre Filu, que de dire que la France quand même a consacré au Liban ce confessionnalisme d'État, l'a instauré et a contribué à sa mise en œuvre. C'est donc étrange de la part d'Emmanuel Macron de choisir cette date du 1er septembre pour retourner à Beyrouth, évidemment pour poursuivre l'aide internationale, mais c'est quand même une date qui est chargée de sens.
Date qui est très chargée, mais justement il faudrait en sortir par le haut et appeler dans la lignée des déclarations déjà faites par Emmanuel Macron à Beyrouth le 6 août dernier, il parlait d'un nouveau pacte politique, appelé cette fois à dépasser le confessionnalisme. Il est évident qu'aujourd'hui, cette structure communautaire, ce véritable carcan, interdit l'expression d'une authentique citoyenneté libanaise. Or, on a vu que face à la catastrophe, face à la double explosion du 4 août, les Libanais se sont mobilisés sans aucune distinction de confession, de communauté, pour s'aider les uns les autres. Et c'est ça, c'est ce patriotisme libanais, cette citoyenneté libanaise qui devrait être au cœur d'un appel solennel lors du centenaire du Grand Liban.
Qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que le président libanais Michel Aoun a dit hier, à savoir qu'il était prêt à remettre en cause le système confessionnel? Il a appelé à un État, alors les médias aujourd'hui français francophones reprennent ce terme de laïque, un État laïque, mais vous m'avez dit en début d'émission que ce n'était pas le bon terme.
C'est Daoulé Madani et c'est l'État civil, donc c'est un État qui serait neutre envers les différentes confessions, sans être complètement libéré, émancipé du communautarisme. Il faut voir que le président Aoun, aujourd'hui, est à la pointe de la résistance de la classe politique libanaise à toute forme de réforme. Donc, il donne des gages symboliques, sans du coup s'engager. Et c'est ça qui est inquiétant, ce sont ces manœuvres dilatoires. Il faut savoir que si ce n'était pour la visite du président Macron, qui commencera donc ce soir, eh bien, le Liban, qui n'a pas de gouvernement depuis le 10 août, n'en aurait toujours pas, et c'est uniquement sous la pression de cette visite que les différents partis semblent s'être entendus sur un candidat qui n'est pas encore officiel, mais qui a apparemment la base politique requise.
De la même façon, le Hezbollah se dit prêt aussi à un nouveau pacte politique, ce qui est plus vague, mais le Hezbollah a aussi tout intérêt à ce que ce système perdure.
Oui, oui, donc ils courbent le dos, ils se disent quand même il faut donner des gages, parce que l'intervention française au Liban est extrêmement populaire. Emmanuel Macron était le seul chef d'État à faire ce déplacement. Il y a eu d'autres dignitaires étrangers, mais jamais au niveau de chef d'État. Il est allé sur des lieux où le président libanais lui-même ne peut toujours pas aller, parce qu'il en serait chassé par la population. Donc, il y a effectivement ce bras de fer entre la classe politique et la société civile au Liban, dans lequel le président Macron est obligé de faire avec les autorités en place, c'est normal, exigence et non ingérence, mais en essayant de relayer autant qu'il le peut les revendications de la société civile.
Exigence et non-ingérence, et c'est là un exercice aussi d'équilibriste, mais vous rappelez dans votre billet, Jean-Pierre Filu, que Emmanuel Macron n'est évidemment pas le premier président français à se montrer aussi déterminé à aider le Liban. Évidemment, Jacques Chirac, avec ses liens très forts qu'il avait avec le président Rafik Hariri, mais aussi son prédécesseur François Mitterrand, dont on parle moins quand on parle du Liban, des liens.
Alors que la France a été engagée pendant un an et demi avec une force multinationale, qu'elle y a perdu des dizaines de soldats en 1982-84. Je crois que ce qui est très important, c'est que Emmanuel Macron a fort habilement joué sans montrer le moindre penchant pour telle ou telle faction. Hein, et donc, il ne peut pas être accusé de parti pris envers tel ou tel politicien. Si préférence, sympathie, empathie il y a, elle va du côté de la société civile, quelle qu'elle soit, sans distinction de communauté. Et ça, c'est très important, 100 ans après la proclamation d'un Liban qui avait été clairement taillé pour une communauté, pour une partie de la population libanaise, contre une autre.
C'est vrai que par ailleurs, la France reconnaît aujourd'hui le Hezbollah comme une composante politique libanaise et s'abstient de le qualifier de terroriste, ce qui fait que les discussions sont peut-être plus simples. Pour conclure, Jean-Pierre Filu, pour cette population civile libanaise, qu'est-ce qu'elle représente, cette date du 1er septembre ?
C'est avant tout, comme disait le président Macron, un point d'étape. Ce n'est pas une date qui fera célébration, commémoration, mais elle essaiera effectivement d'engranger tout ce qu'elle pourra de la part d'une classe politique dont on voit que sa mauvaise volonté est à l'épreuve des pires catastrophes.
La date du 22 novembre 1943 est une date plus célébrée, l'indépendance du Liban.
Plus célébrée, étant entendu que la contestation n'avait pas forcément choisi le 22 novembre, qu'elle avait effectivement commémoré à sa façon, mais d'autres dates pour faire des chaînes humaines du nord au sud et de l'est en l'ouest du pays. Là encore, pour envoyer ce message très clair, nous sommes unis, nous sommes Libanaises et Libanais, quelles que soient nos confessions, quelle que soit notre communauté.
Merci beaucoup Jean-Pierre Filu d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je rappelle le titre de votre billet ce matin, Le défi pour Emmanuel Macron du centenaire du Liban, publié sur votre blog Un si proche Orient, hébergé par lemonde.fr. Merci beaucoup.
Merci à
vous. Et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture. Des grands thèmes d'actualité déclinés tout au long de la semaine, une approche comparatiste pour saisir la diversité et la complexité du monde, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr. Sur France Culture, à l'heure du déjeuner, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Toute l'actualité culturelle et des idées en deux fois une demi-heure. On ouvre la semaine avec un historien qui fait date, Patrick Boucheron. On la refermera avec un bon onze de la littérature, Emmanuel Carrère. Mais aussi une comédie musicale signée Blandine Rinkel, un thriller écologique, celui de Pierre Ducrozet, un polar rural, Laurent Mauvignier et L'Arche de Noé de Joël Zask.
La grande table, de lundi à jeudi à midi ou en podcast et sur franceculture.fr.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour
Guillaume
Bernard.
Bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Bon, ce dernier lundi du mois d'août, votre humeur du jour Guillaume Bernard, où est-ce qu'on en est dans le journal de l'angoisse?
Eh bien oui, qu'est-ce qui pourrait nous effrayer aujourd'hui? Puisque c'est la rentrée, on pourrait évoquer par exemple une maladie grave qui toucherait les enfants, seulement les enfants. Souvenez-vous, c'était la grande angoisse lors de la dernière rentrée, reprise. Après le déconfinement, le retour à l'école, des enfants testés positifs au Covid-19 souffraient d'une maladie grave, mystérieuse, la maladie de Kawasaki, angoisse, stress, terreur, que celui qui n'a pas rencontré des parents toupies sur ce thème ou qui n'a pas été lui-même fou d'angoisse me jette le premier masque. L'idée d'envoyer son rejeton à l'école pour qu'il ramène une maladie cardiaque était de nature à en faire réfléchir plus d'un. Et aujourd'hui, en fait, où en sommes-nous? Les enfants n'ont-ils plus de cœur? Eh ben, vous savez, ce qui est bien, c'est qu'une information bidon, comme le disait Lazarev, ça fait deux informations, l'annonce et son démenti. Mais pour l'angoisse, c'est un peu différent parce que lorsque l'on a une inquiétude qui est arrivée à bon port, le port de l'angoisse, il n'y a pas de démenti. Or, après avoir vu des unes entières consacrées à la maladie de Kawasaki, on découvre hier, mais alors vraiment, un discret article dans le JDD, le journal du dimanche, où il est question du, je cite, faux Kawasaki, ce qui est le premier scoop, hein, l'effrayante Kawasaki qui venait ravir les nouveaux-nés d'Égypte et d'ailleurs et les suivants, était un faux Kawasaki. Et le papier de poursuivre en expliquant que tout va bien, qu'on n'a pas revu de nouveaux cas ou presque de cet été, et que de toute façon, les enfants guérissent très bien. D'ailleurs, la maladie de Kawasaki appartient au passé. Maintenant, on l'appelle PINS. Et on est donc passé de Kawasaki au PINS, et pourquoi pas demain Hochet ou Tétine, parce que PINS est un acronyme hein, en réalité. Mais enfin, la peur a changé de nom, de camp, et même on peut dire qu'elle a foutu le camp. Alors, je vous propose pas de fêter l'arrivée du PINS, mais enfin, on aurait pu imaginer au sujet de ce Covid, et du Covid d'ailleurs, non pas un journal des bonnes nouvelles, mais un journal des anciennes nouvelles atroces. Je suis sûr qu'on aurait de quoi remplir la une chaque jour.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et à l'instar de la plupart des pays européens, la France a décidé d'organiser une rentrée pour tous les élèves, et ce malgré la pandémie qui se poursuit. Le postulat sous-jacent est bien entendu que pour les enfants, la déscolarisation est bien plus redoutable que le coronavirus. Mais l'épidémie a-t-elle encore creusé les inégalités scolaires, et que penser d'une école transformée en bal masqué? On en parlera dans une quarantaine de minutes en compagnie de deux sociologues, François Dubet et Marie Durubella. En attendant, il est 7h sur France Culture. Je vous souhaite un excellent réveil.